Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau.
Jusqu'à 10h, nous sommes aujourd'hui le 11 avril et c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson, une pathologie qui touche aujourd'hui en France environ 200 000 personnes, 25 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année et on estime que le nombre de malades a plus que doublé en France entre 1990 et aujourd'hui. La population évidemment vieillit et nos neurones qui produisent de la dopamine disparaissent progressivement avec l'âge et c'est l'apparition de cette maladie dont nous parlons ce matin avec le professeur Vassilios Meissner. Bonjour professeur.
Bonjour.
Chef du service de neurologie et des maladies neurodégénératives du CHU de Bordeaux. Et nous serons également au téléphone, il vient d'arriver, avec Jean-Luc Cambon. Bonjour Jean-Luc Cambon.
Bonjour.
Délégué départemental de l'association France Parkinson. Et on va rappeler l'importance de vos dons en cette journée mondiale de la maladie de Parkinson. Vous n'hésitez pas, vous avez des témoignages, des questions à poser. Évidemment, nous sommes à votre service jusqu'à 10h ce matin.
France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux.
Professeur Meissner, je parlais de nos neurones qui sont un peu faibles passé un certain âge, ces neurones donc qui produisent de la dopamine finalement accélèrent l'apparition de cette maladie. On est touché à partir de quel âge par la maladie de Parkinson? Est-ce qu'on les détecte de plus en plus jeunes?
Alors effectivement, il y a des formes qui commencent, même si je regarde les patients les plus jeunes que nous suivons actuellement au CHU, qui commencent la maladie vers 25-30 ans. Donc c'est pas forcément que une maladie qui touche le sujet très âgé ou très avancé dans la vie. L'âge moyen du diagnostic se situe plutôt autour de 60 ans. Donc il y a quand même une grosse partie des patients qui sont jeunes, qui sont en activité professionnelle, qui parfois s'occupent encore des petits-enfants. Donc toute une organisation, tout un stress supplémentaire dans la maladie que vous pouvez bien imaginer.
Alors cette journée mondiale de la maladie de Parkinson, c'est évidemment l'occasion de nombreuses manifestations, campagnes de sensibilisation, dépistage. Je le disais, on estime que le nombre de malades a doublé en globalement une vingtaine d'années. 25 000 cas, nouveaux cas diagnostiqués chaque année. L'épidémie est loin d'être terminée.
Avec le vieillissement de la société, il est vrai que les chiffres vont certainement encore augmenter au cours des prochaines années. Et si on regarde même l'échelle mondiale, aujourd'hui on est à environ 5 millions de cas et on va certainement passer à 13 millions d'ici 15 ans.
Et je voudrais qu'on donne la parole à Bernard qui nous appelle au 05 56 19 10 10. Bonjour Bernard, vous êtes à Mérignac et vous êtes directement concerné par la maladie de Parkinson. C'est l'occasion de vous écouter en cette journée importante, journée mondiale de la maladie. Bernard, vous nous entendez?
Oui. Oui, on
vous écoute. Si vous aviez un témoignage ou une question, on vous écoute. Mais...
Alors, j'ai une question, voilà. Je suis, depuis départ 2023, je suis atteint d'une neuropathie dégénérative chronique, ça s'appelle une paresthésie.
D'accord, donc ce n'est pas la maladie de Parkinson, Bernard.
Ce n'est pas la maladie de Parkinson, mais ça fait partie de la neuropathie dégénérative chronique.
Oui, vous aviez une question rapide, parce que là on est un peu sur un sujet...
Alors j'aurais voulu savoir, au niveau, d'après ce qu'on m'a dit, au niveau du cerveau, comment ça se passe?
Si j'ai bien compris, c'est que vous avez une neuropathie, donc ça touche plutôt les nerfs périphériques, donc c'est pas forcément...
Les jambes et les veines, voilà.
Bernard, désolé, on n'est pas du tout dans le sujet ce matin sur France Bleu Gironde. Petite erreur d'aiguillage, mais merci de nous avoir appelé et puis surtout merci de nous écouter. On va revenir à la maladie de Parkinson ce matin. Il y a des questions qui sont arrivées. Claudine à Bordeaux qui nous dit quels sont les signes ou les symptômes qui peuvent nous alerter sur le fait d'être touché par la maladie. On pense souvent aux tremblements, mais attention, on peut être touché par la maladie de Parkinson sans trembler, professeur Meissner.
C'est tout à fait vrai, parce qu'effectivement, dans la population en général, la maladie de Parkinson est plutôt associée au tremblement, mais ce sont 2/3 des patients. Ça veut dire qu'un tiers des patients ne vont jamais développer un tremblement. Ce qui sont souvent les premiers signes, sont les signes en lien avec la lenteur, avec l'impact de la lenteur sur les activités quotidiennes. Ça peut être un changement d'écriture, ça peut être des difficultés de boutonner, déboutonner, d'utiliser les mains pour les activités quotidiennes. Ça peut être une lenteur de la marche, et puis une sensation de raideur. raideur. En général, les symptômes se manifestent de manière asymétrique, commencent d'un côté, et puis au fur et à mesure vont s'enrichir et vont certainement motiver le patient de consulter un neurologue.
Troubles de la parole, ralentissement de la parole aussi.
Oui, mais ce sont plutôt les troubles un peu plus tard. Je dirais vraiment tout au début, la première manifestation sont les gestes très fins en lien avec la lenteur et puis éventuellement la marche. Et puis plus tardivement, bien entendu, les patients peuvent aussi développer les troubles d'articulation nécessitant parfois même une prise en charge orthophonique pour la rééducation.
Pour terminer sur cette carte d'identité des signaux, des symptômes. Est-ce que les hommes et les femmes sont touchés dans la même proportion par la maladie ou est-ce que ce sont plutôt des hommes majoritairement ?
Alors, ce sont plus d'hommes que de femmes.
On sait pourquoi ou pas ?
Alors, ça reste encore un des mystères, peut-être même pas un million, mais peut-être un milliard de dollars ou d'euros pour le comprendre. Mais nous pensons aujourd'hui, selon les données des études épidémiologiques, que les hormones de la femme, donc l'œstrogène en particulier, est pour l'homme protecteur et permet de ne pas développer la maladie par rapport aux hommes. Donc, le ratio aujourd'hui est 1,5 versus 1. Environ.
D'accord. Et sur l'autre question qui revient pour terminer sur les facteurs de risque, Olivier Obusca qui nous dit « J'ai plusieurs cas de personnes touchées dans ma famille. Est-ce qu'il y a des facteurs héréditaires et des facteurs aggravants ?»
Alors évidemment, moi j'ai commencé il y a 30 ans de m'intéresser à la maladie de Parkinson, on nous avait toujours dit que la génétique n'existe pas du tout et finalement on s'est rendu compte au cours des 30 dernières années qu'environ 10 à 15% des patients présentent en effet une maladie héréditaire avec potentiellement une transmission. Il existe aujourd'hui des tests génétiques qui peuvent être effectués à travers d'une prise de sang. Et quand il y a plusieurs cas dans la famille, en général, on propose ces recherches génétiques.
France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h.
11 avril, journée mondiale de la maladie de Parkinson qui touche aujourd'hui en France 200 000 personnes, 25 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Et avec nous en studio, le professeur Vassilios Meissner, chef du service de neurologie et des maladies neurodégénératives du CHU de Bordeaux. On va parler notamment des nouvelles découvertes, nouveaux traitements. Et avec nous au téléphone, Jean-Luc Cambon. Rebonjour, monsieur Cambon.
Bonjour, professeur.
Oui, vous connaissez Jean-Luc Cambon et professeur Meissner. Vous êtes le délégué départemental, justement, de l'association France Parkinson en Gironde. Pour cette journée, justement, qu'est-ce que l'association France Parkinson organise de particulier, Jean-Luc Cambon ?
Alors, déjà, France Parkinson fête ses 40 ans, donc c'est quand même une date mémorable. Et puis, au-delà de ça, effectivement, il y a la journée mondiale qui sera animée le 16 mai pour Bordeaux. La maison cantonale à Bordeaux.
Parlez bien près du téléphone, Jean-Luc Cambon. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous organisez donc pour cette journée spéciale, donc qui sera un petit peu décalée dans le temps ?
Oui, une conférence à laquelle participera le professeur François Tison sur la méditation de pleine conscience. Mm-hmm. Le docteur Faubert Samy Alexandra qui parlera un peu de ce que se passe-t-il dans mon cerveau, comment agissent les médicaments. Et le professeur des universités Pascal Fossa qui traitera de la douleur dans la maladie de Parkinson, la thérapeutique actuelle et approche future.
L'importance d'une journée comme cette journée mondiale de la maladie de Parkinson, sensibiliser évidemment le grand public autour de la prise en charge de cette maladie, des futurs traitements, on va les évoquer dans un instant. Jean-Luc Cambon, pour votre association France Parkinson, le nerf de la guerre c'est l'argent. Les voies d'entrée pour donner à l'association comment est-ce que ça peut... Il y a le site internet, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone dédié comme pour le Téléthon par exemple ?
Il n'y a pas de numéro de téléphone comme le Téléthon, par contre les dons peuvent arriver directement à l'association qui se trouve à Paris, sur le site franceparkinson.fr, en précisant que c'est pour le comité 33. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la région, on essaye, et du département plus exactement, on essaye d'animer plusieurs ateliers qui à destination des malades comme des aidants. Il ne faut pas oublier la part
des aidants, effectivement. On a consacré plusieurs émissions au rôle capital des aidants qui entourent effectivement les patients touchés par Parkinson, Alzheimer, et qui souvent s'épuisent. Merci Jean-Luc Cambon, délégué départemental de l'association France Parkinson. Et toutes les infos, évidemment, donc sur la journée que vous organisez à Bordeaux. Je crois que vous reviendrez d'ailleurs quelques jours avant sur France Bleu Gironde pour une émission spéciale et pour nous présenter cet événement. Merci Jean-Luc Cambon, à bientôt. Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
France Bleu Gironde, à votre service.
Le professeur Vassilios Meissner avec nous, chef du service de neurologie et des maladies neurodégénératives du CHU de Bordeaux. Je le disais, vous avez eu les honneurs de la presse internationale, toutes les radios, avec de nouvelles découvertes réalisées en collaboration avec les équipes du CHU de Toulouse. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors ?
Ce qui va vous surprendre, c'est que nous avons évalué l'efficacité d'un traitement antidiabétique qui existe depuis une vingtaine d'années déjà pour la prise en charge des patients avec un diabète classique de type 2. Mm-hmm. Et ce qui est finalement pour vous surprenant, qu'il est moins pour nous, c'est qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, il y a une recherche qui a vraiment dégagé des évidences d'un lien fort entre le diabète et les maladies neurodégénératives, que ce soit la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer.
Donc des diabétiques ont moins de chances de développer ces maladies?
Au contraire. Les diabétiques ont un risque accru de développer une maladie de Parkinson, et nous savons que certains traitements antidiabétiques, notamment le traitement que nous avons évalué qui a l'avantage de ne pas provoquer des hypoglycémies, parce que c'est ça quand même aussi un mécanisme fondamental des traitements antidiabétiques, nous savons que chez ces patients diabétiques, certains de ces antidiabétiques vont diminuer le risque de développer plus tardivement une maladie de Parkinson. Mm-hmm. Et en plus, il y a des données, des modèles précliniques dans les cultures cellulaires, des modèles chez l'animal et aussi sur des tissus du patient, nous avons pu identifier des anomalies qui ressemblent un peu au diabète, mais à l'intérieur du cerveau. Et à partir de ces données, ont été conduits trois essais jusqu'ici avec ce type d'antidiabétique. Un premier qui a été publié en 2017, qui donnait déjà un signal intéressant, des résultats encourageants. Bon, c'était une étude d'un seul centre, 60 patients, ça reste une petite taille, mais c'était déjà, on avait enclenché quelque part le chemin. Et puis notre essai qui était une grande étude reposant sur 156 patients, donc dirigée, comme vous l'avez dit, avec le professeur Haskell au CHU de Toulouse et moi-même, et impliquant quand même, c'était un effort colossal académique.
Il y a une cinquantaine de
21 centres, oui. Centres experts du réseau NS Parc Effrin en France, donc les centres experts Parkinson qui ont participé, 156 patients, suivis sur un an, la moitié tirage au sort du traitement antidiabétique ou placebo, et puis au cours d'un an, on a vu que les patients qui ont reçu le traitement n'ont pas progressé, on va dire, la sévérité de leurs symptômes moteurs dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit le tremblement, que ce soit la raideur, que ce soit la lenteur, par rapport à un groupe placebo qui a progressé, qui s'est aggravé. Bon, après, ça reste une étude de 156.
Mais c'est une piste très intéressante.
Ouais. C'est ce qu'on appelle une phase 2. Donc, c'est une phase, on va dire, intermédiaire du développement. Et maintenant, nous allons essayer tous nos efforts de convaincre Sanofi, qui avait mis à disposition le médicament gratuitement pour le test dans l'essai, de nous donner accès à ce médicament à nouveau pour une étude de phase 3 qui sera plus grande, avec un suivi un peu plus lent, pour voir surtout si au cours d'un an on arrive encore à amplifier l'effet avant de considérer que ça pourrait être un traitement vraiment pour les patients.
Alors là, c'est pour un médicament, et il y a une question intéressante de Philippe qui nous écoute à Léognan sur Facebook et qui nous dit: est-ce que les thérapies géniques et cellulaires donnent de nouveaux espoirs et de nouvelles pistes de traitement, comme ça a été le cas pour certaines myopathies? Le Téléthon, l'argent du Téléthon a permis de financer le fameux Généthon, ce laboratoire, on a décrypté le génome humain. On a aujourd'hui 30 ans de recul sur ces maladies qui, l'espérance de vie des malades touchés, ont considérablement augmenté. Est-ce que ces pistes de thérapie génétique et cellulaire, là aussi, pourrait donner de bons résultats dans le cadre du traitement et de la prise en charge de la maladie de Parkinson?
Alors, ces pistes sont en effet poursuivies, et notamment la thérapie génique qui consiste à injecter au niveau du cerveau, dans les structures qui sont fortement impliquées dans le processus neurodégénératif, des enzymes qui permettent de produire de la dopamine. Et en effet, c'est notamment le professeur Palfi à Créteil qui est le pionnier de cette approche, qui a démontré dans un petit nombre de patients que ça pourrait marcher. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut quand même le valider dans un nombre plus important de patients. Et puis après, il y a d'autres approches génétiques qui sont aussi en cours. Mais on est quand même dans un contexte encore très préliminaire par rapport à d'autres développements médicamenteux.
On a évoqué les médicaments, les thérapies géniques et les thérapies cellulaires. Il y a Sophia Saint-Macaire, professeure, qui nous dit: j'ai entendu parler de SCP, la stimulation cérébrale profonde. Ça, c'est une opération du cerveau à base d'électrodes. Est-ce que ça marche ?
Alors là, en l'occurrence, nous avons déjà 30 ans de recul. Donc c'est effectivement une technique qui d'ailleurs a été développée au laboratoire à Bordeaux. Avant d'être implémentée plus largement à Grenoble et dans le monde entier, et qui consiste en effet à poser des petites électrodes dans certaines structures du cerveau, de les connecter avec une batterie qui va de manière constante appliquer un courant électrique. Et chez les patients qui, ce qu'on appelle, présentent des fluctuations motrices, ça veut dire après 10-15 ans, un état où il y a une alternance importante entre un état blocage, où le patient est vraiment en grande difficulté d'effectuer ses activités quotidiennes, et parfois des mouvements involontaires induits par les traitements. Ce sont des patients qui sont très... C'est vraiment la population cible.
Et c'est le cas pour certains médicaments qui provoquent ces mouvements un peu que...
C'est finalement la conjonction entre la progression de la maladie et la perte des neurones dopaminergiques et les traitements. Donc c'est pas les traitements de manière isolée, c'est vraiment la conjonction. Et nous savons que chez ces patients, cette stimulation a clairement un effet bénéfique si on regarde la majorité des patients, avec à la fois une amélioration des signes moteurs et un impact sur la qualité de vie.
Journée mondiale de la maladie de Parkinson avec le professeur Vassilios Meissner du CHU de Bordeaux. Pour cette fameuse SCP, dernière question, il y a un âge limite au-delà duquel vous ne proposez pas ce type d'opération qui touche directement le cerveau ?
En effet, l'âge limite se situe autour de 70 ans, puisque nous savons que si les patients plus âgés sont opérés, souvent quand on fait la balance risque-bénéfice, ils s'en sortent moins bien et les résultats sont moins intéressants.
Conclusion, aujourd'hui, malgré tous les efforts, on ne guérit pas la maladie de Parkinson.
C'est tout justement pour ça que nous avons mené l'étude avec cet antidiabétique, et il y a bien entendu d'autres approches actuellement en cours dont l'objectif est vraiment d'interférer avec le processus de la maladie pour ralentir la progression, puisque les traitements que nous avons déjà évoqués tout à l'heure sont des traitements symptomatiques. Ça veut dire que ce sont des traitements qui quelque part vont remplir l'essence qui manque, remplir l'essence de dopamine qui manque, et permettre ainsi que le cerveau reprend ses fonctions, mais il n'y a aucune interférence avec la progression de la maladie. Et donc l'enjeu vraiment de l'avenir est de trouver un traitement qui permet de ralentir la progression.
Et dans un premier temps, évidemment, plus de confort pour les personnes qui sont touchées. Conclusion en 30 secondes, vous disiez 30 ans de recul aujourd'hui dans vos recherches et vos travaux sur la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en 2024 par rapport à ce qui se passait quand vous avez commencé à travailler sur la maladie de Parkinson?
Il fallait des
grandes avancées.
Je pense la révolution, comment j'ai commencé mon internat, c'était la stimulation cérébrale profonde, et qui s'est développée à partir de la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, avec vraiment une grande évidence que ça fonctionne chez les patients bien sélectionnés qui ont ces fluctuations motrices. Nous avons certainement développé tout un tas d'approches, on va dire, complémentaires. On a entendu tout à l'heure sur la journée maladie de Parkinson du 16 mai que le professeur Tison va intervenir sur la méditation. Donc en dehors des traitements médicamenteux, il y a bien sûr toute une prise en charge complémentaire à développer, que nous développons, que d'autres développons. Il y a bien sûr aussi l'accompagnement des aidants que vous avez mentionné tout à l'heure.
Donc en fait, des professionnels de santé, ergothérapeutes,
exactement. Donc la prise en charge, en fait, ce qui a changé depuis 30 ans, on change de la perspective unique du médecin vers une prise en charge pluridisciplinaire avec des approches autres qui sortent des médicaments pour essayer de mieux soutenir les patients et les aidants.
Et en ce qui vous concerne, de trouver les médicaments de demain. Merci beaucoup, professeur Vassilios Meissner du service de neurologie et des maladies neurodégénératives du CHU de Bordeaux. Merci beaucoup, professeur.
Au revoir.
Et à bientôt.
À bientôt.
Merci. Demain, suite, retour évidemment des experts sur France Bleu Gironde. Demain matin, entre 9h30 et 10h, question à nos experts retraite avec vos appels au 05 56 19 10 10.
À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.